Combien de vaillants hommes, que de belles dames, combien de gracieux jouvenceaux, que non seulement n'importe qui, mais Galien, Hippocrate ou Esculape, auraient jugé en parfaite santé, dînèrent le matin avec leurs parents, compagnons et amis, et, le soir venu, soupèrent en l'autre monde avec leurs trépassés. Boccas, le Décaméron, première journée.
Les fenêtres de l'histoire avec Philippe Faureau.
C'est en 1894 que le docteur Alexandre Yersin a découvert les causes exactes du bacille de la peste. On sait désormais depuis ses travaux que ce sont les puces du rat qui transportent la maladie et qui, de ville en ville, de campagne en campagne, d'homme en homme, peuvent propager ce terrible mal, qui provoque une dilatation des ganglions, formant des bubons, sorte d'abcès noirâtre, d'où le nom de peste noire, qui éclate ou n'éclate pas, mais également provoque des abcès pulmonaires qui provoquent des difficultés de respiration et la mort dans les trois jours qui suivent. Les Occidentaux du Moyen Âge avaient en fait perdu la mémoire de la peste, parce qu'effectivement, depuis ce qu'on a appelé la peste justinienne dans les années 540, l'Occident chrétien n'avait pas été frappé par la peste. Il y avait eu des famines, il y avait eu des lèpres, bien entendu, il y avait eu toute une série d'épidémies, mais la peste en tant que telle n'avait pas frappé l'Europe depuis donc le VIe siècle. Or, l'Europe est frappée à nouveau en 1346. La peste est partie de la mer Noire, de Kaffa, un port assiégé par les Mongols et où, visiblement, la peste s'est déclenchée. Par une série de navires qui ont accosté en Provence et en Italie, la peste s'est répandue dans la péninsule italienne, puis en France, dans le bassin méditerranéen et jusqu'en Europe du Nord. En l'espace de 3-4 ans, l'ensemble de l'Europe a été frappée. Face à ce mal que l'on ne contrôlait pas, qui effrayait les populations, quelles étaient les mesures prises ? Première idée, qui était d'ailleurs plutôt bonne, c'est d'essayer de mettre des vaisseaux en quarantaine. Ainsi, à Raguse, en 1377, lors d'une nouvelle épidémie de peste, eh bien, des bateaux ont été obligés de rester loin du port pour empêcher une éventuelle propagation. Ensuite, les villes se dotent de groupes de médecins et de groupes de volontaires qui sont chargés, eh bien, si ce n'est de soigner les malades, les atteints de la peste, mais du moins de s'occuper des funérailles, car de nombreuses fosses communes ont dû être organisées très vite pour enterrer les morts. On a essayé aussi de trouver des responsables, des boucs émissaires. Alors on a expulsé les prostituées dans les villes, parce que, disait-on, elles provoquaient le péché et donc la colère de Dieu, car la peste est bien perçue comme une espèce de volonté divine de punir les hommes de leurs péchés. Mais il y a également des violences contre d'autres boucs émissaires, les lépreux et également les juifs. Effectivement, un peu partout en Europe, on s'en prend aux communautés juives qu'on accuse d'empoisonner les puits et donc de provoquer les pestes. Cette attitude, d'ailleurs, contre les juifs, irrite le pape Clément VI, qui, le 26 septembre 1348, envoie une lettre aux évêques de la chrétienté. En voici un extrait. « Récemment, une nouvelle infamie est parvenue jusqu'à nous. La peste que Dieu inflige au peuple chrétien pour ses péchés, voici que des chrétiens la mettent sur le compte des juifs. Poussés par le diable, ils les accusent d'empoisonnement. Ils les massacrent, sans les laisser recourir à la justice. Ils ne ménagent ni les enfants, ni les vieillards, ni les femmes. Il est vrai que ce crime d'empoisonnement mériterait un châtiment terrible, mais on voit que la peste atteint aussi les juifs. Et puis, comment croire que les juifs ont pu trouver le moyen de déclencher une catastrophe pareille ? Nous vous ordonnons de profiter de la messe pour interdire à votre clergé et à la population, sous peine d'excommunication, de léser les juifs ou de les tuer. S'ils ont des griefs contre les juifs, qu'il recourt au juge compétent. Donc effectivement, face à la catastrophe, les Juifs ont malheureusement servi de bouc émissaire un peu partout en Europe. La meilleure solution, c'est finalement de prendre la fuite. Et d'ailleurs, dans nombre de villes européennes, on quitte les centres urbains souvent mal entretenus, provoquaient effectivement, avec une hygiène extrêmement limitée, la diffusion de la peste. Et comme l'écrira Boccas dans le Décaméron, la jeunesse aisée de Florence part à la campagne pour essayer de fuir la ville atteinte de la peste. Alors, les conséquences démographiques de la peste sont immenses. On pense qu'il y a eu, à Florence et dans les villes autour de la capitale toscane, jusqu'à 100 000 morts. Une étude locale à Givry, en Bourgogne, ville d'environ, enfin, petit village d'environ 1200 habitants, 115 morts. À Toulouse, un tiers de la population a sans doute disparu entre le printemps et l'été 1348. 60% de la population d'Albi meurt. Mais si on remonte dans l'Europe septentrionale, le bilan est aussi terrifiant, puisque à Hambourg et à Brême, c'est sans doute la moitié de la population qui disparaît. Ainsi, le De Profundis se multiplie dans toute l'Europe. La grande peste donc de 1348-1352 a eu non seulement des conséquences démographiques déjà évoquées, mais a été également un facteur de dislocation des communautés villageoises ou urbaines. Écoutons Boccas à propos de ce qu'il voit à Florence. La peste affolait les gens, on fuit la maladie et tout ce qui l'entourait. Certains habitants vivaient à l'écart de la communauté, adoptant une vie sobre. D'autres, au contraire, se mettaient à boire, chanter, s'accorder tous les plaisirs et riaient des plus tristes événements. D'autres, enfin, pensaient que le meilleur remède était la fuite. Quel que soit leur comportement, beaucoup étaient atteints où qu'ils se trouvent. Avant de tomber malades, ils avaient eux-mêmes donné l'exemple à ceux qui demeuraient bien portants. Ils étaient donc abandonnés à leur tour. Les gens avaient si peur que le frère abandonnait le frère, l'oncle, le neveu, souvent même la femme, le mari. Les parents évitaient de rencontrer leurs enfants et de les aider. Donc il y a bien une déstructuration de la société touchée par la peste. Mais les conséquences sont également importantes dans la mesure où elles touchent l'économie et la structure sociale. En effet, la grande peste du milieu du XIVe a des répliques entre tous les 6 et 10 ans. Et jusqu'au milieu du XVe siècle, la peste fait partie du quotidien des Européens. Les campagnes, par exemple, sont également touchées. On a calculé que dans les campagnes du bassin parisien, 75% de la population disparaît entre les années 1320 et les années 1470. Et le royaume de France lui-même, qui avoisine les 20 millions de sujets en 1328, à une population d'environ 9 à 12 millions de personnes au milieu du XVe siècle. Ceci a évidemment une conséquence donc sur la propriété foncière. Car si beaucoup meurent, certains sont toujours vivants, et ils peuvent ainsi arrondir leur propriété. Et il y a donc une campagne qui voit l'arrivée de nouveaux paysans riches qui ont pu acquérir à peu de frais les territoires abandonnés par les défunts ou par les familles des défunts, et même une seigneurie qui s'agrandit elle-même sur les territoires abandonnés. En ville, il y a eu ce qu'on appelle un âge d'or du salariat. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il y a beaucoup moins d'ouvriers dans les villes de la chrétienté des XIVe et XVe siècles. On a besoin d'ouvriers. Or, comme il y a moins de personnes, eh bien, les salaires vont augmenter. Autre élément extrêmement important, ce sont les causes spirituelles et religieuses. Évidemment, le chrétien des 14e et 15e siècles va être obsédé par cette mort si brutale qui semble l'atteindre. Et donc, on a une multiplication des représentations artistiques des morts du Christ, de la déploration de la Vierge, des représentations de la mort par des danses macabres où toutes les conditions sont représentées, emportées par la mort. Il y a même un art qui se développe, l'art du transi, où l'on voit des cadavres en décomposition sur les tombes des défunts, ainsi le cardinal Lagrange, au tout début du XVe siècle, à Avignon. Se multiplient aussi les représentations des jugements derniers, à Pise, bien sûr, à Albi, mais également, en plein XVIe siècle, Michel-Ange, dans la chapelle Sixtine, qui peint, entre 1534 et 1541, le grand jugement dernier. D'autre part, la peur de la mort fait que dans les testaments se multiplient les demandes de messe, car très souvent, la peste frappant très vite, on n'a pas le temps de faire les funérailles décentes attendues par tous les chrétiens. Et donc, on assiste à une débâcle des rituels funéraires, d'où la nécessité de faire des messes après la mort. On comprend ainsi la fameuse phrase que récitaient les chrétiens en ce temps-là, « De la peste, de la guerre, de la famine, délivre-nous Seigneur ».